Bonjour, c'est Christophe Rousset. Donc, pour ce nouveau podcast, Christophe Rousset, claveciniste, chef d'orchestre, qui invite ses amis pour discuter comme ça, bâton rompu. Aujourd'hui, Jody DeVos, soprano. Jody, bonjour.
Bonjour, Christophe.
Je suis ravie que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots ?
Bien sûr, soprano, plus précisément coloratour, comme on dit, belge de nationalité, française de cœur quand même. J'habite à Paris depuis un moment, donc je me sens très proche de la France. Répertoire assez varié, mais avec un grand amour pour le répertoire français, romantique, et puis de Mozart, qu'on a eu le bonheur de faire ensemble. Que puis-je dire d'autre ? Trentenaire.
Quand est-ce que tu as commencé la musique ?
J'ai commencé à prendre mes premières leçons de musique à l'âge de 11 ans, des cours privés dans mon petit village après l'école.
Un instrument ?
Le piano, mais j'ai vite switché de Mozart à Michel Berger, pour mon plus grand malheur à l'heure actuelle, parce que du coup, ça ne fait pas de moi une très grande pianiste, même si Michel Berger en était un. Mais malheureusement, ces compositions ne sont pas les plus formatrices pour l'oreille classique dont j'ai besoin aujourd'hui. Mais donc voilà, j'ai fait du piano pendant presque 10 ans. Il ne m'en reste pas grand-chose.
Quand est-ce que tu as commencé le chant ?
Et le chant, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'ai découvert l'opéra vraiment à ce moment-là. Je chantais de la pop, de la chanson de variété. J'étais dans un chœur. Donc je commençais le chant. Je chantais depuis l'âge de 5 ans et demi, plus ou moins. Mais vraiment, mes premiers cours de chant lyrique, c'était à l'âge de 16 ans à Ciné. C'était du Puccini et du Pergolèse, voilà. Je crois. Donc, on commençait très, très fort.
Quel est le prof de chant qui t'a vraiment mis sur les rails ?
Sur les rails, c'est Françoise Villatour, qui était professeure à Ciné. Et puis, j'étais à Namur avec Benoît Gillot et Élise Guébeleu, qui sont vraiment des... Voilà, j'ai eu des formidables professeurs. Mais j'en ai eu beaucoup, des profs de chant depuis. J'en compte quand même quelques-uns.
Tu as été tout de suite coloratour ?
Non, j'étais... Non, mais je vais faire peur si je... Enfin, quoi que ça pourra expliquer beaucoup de choses. Je vocalisais pas jusqu'à ma...
Ah tiens.
Ouais, jusqu'à ma troisième année d'études. Donc jusqu'en baccalauréat, parce qu'en Belgique, on a... Donc notre système, c'est 3 années de baccalauréat, 2 années de master. Et j'ai commencé à la vocaliser à la fin de ma troisième année de baccalauréat et d'approcher les suraigus en master 1, master 2.
Tu avais donc quel âge ?
J'avais donc 19-20 ans. 20 ans.
Ça va.
Et avant ça, on faisait chanter Thaïs, Liu, Louise.
Ah, incroyable !
C'était un peu étrange, mais je ne sais pas, j'avais des aigus faciles et assez larges apparemment. J'avais un peu de médium, mais on a commencé à découvrir vraiment la partie de ma voix aiguë plus tard. Et par contre, les vocalises, j'ai dû apprendre à les faire parce que je ne savais pas. Ouais. Je savonnais tout ce qui était rapide, même dans l'ère de la création Nunt Boit Die Flo, les quatre doubles, ça savonnait quoi. Donc j'ai vraiment dû apprendre.
Ah, donc, ouais. Ça s'apprend donc.
Ça s'apprend donc, avis à toutes les jeunes chanteuses qui n'arrivent pas à vocaliser.
C'est ça. Et alors, moi j'ai appris que tu avais eu un grand prix international, n'est-ce pas ?
Oui.
Qui a lancé ta carrière.
Oui. Le deuxième prix Reine Elisabeth, ça a été en 2014, ça a été vraiment le début de la fin, le début de la carrière, ouais.
Oui, moi, j'ai eu de la chance. Génial. Et donc tout de suite un disque Mozart.
Oui, j'ai rencontré donc le CAVEMA, le centre de musique ancienne et vocale de Namur me connaissait déjà. Jean-Marie Marchal, qui en est le directeur, était dans mon jury d'examen depuis plusieurs années à l'IMEP à Namur, là où j'ai fait mes études. Donc, ça a été un peu aussi la rencontre avec Leonardo Garcia Alarcón, avec qui j'ai enregistré un disque Mozart. J'avais rencontré Guy Vanoise avec Les Agréments avant, avec qui on avait enregistré du Haydn. Donc oui, ça a été le disque Mozart. Et puis chaque rencontre en amène une autre. Et voilà, après, il y a eu Alexandre Radvicki et Il était une fois, et puis Offenbach.
Et avec moi, tu as fait une Suzanne d'abord ? Ou c'était d'abord la Reine de la Nuit ?
Non, nous avons commencé
avec un rameau.
Potsdam,
un rameau.
Avec Pygmalion, où je chantais un air. C'était ma première production baroque, mon premier rameau.
Tu chantais Amour.
Amour.
C'est le seul rôle qui a vraiment un air dans cette...
Oui, qui est très très beau. Mais c'est vrai que c'était assez court. Et puis nous avons fait, après la Reine de la Nuit à Dijon.
Quand même pas mal.
Première Reine de la Nuit, c'était Oui, c'était vraiment bien. Merci les talents lyriques.
Une belle mise en scène. En plus.
Très belle mise en scène.
Belle équipe.
Super équipe. Vraiment des très beaux souvenirs qu'on a pas mal tourné quand même. On a été à Caen et à Limoges.
Ouais.
Et donc on s'est retrouvés pour cette fabuleuse Suzanne que j'ai adorée à l'Opéra de Liège. Ça, c'était en 2018. Oui, 2018.
Un peu avant, non ?
Non, avril 2018.
C'était, oui, un très très beau souvenir.
Avec Emilio Sarri, ouais, c'était une production magnifique. J'ai adoré.
Oui, tu avais un joli costume.
J'avais un magnifique costume.
Qui n'arrive pas toujours dans les productions de Mozart.
Non, mais comparé à celui de La Reine de la Nuit, qui était génial, mais où j'avais des dreadlocks décolorés blondes, où j'avais une tête de méduse, oui, ça, c'est vrai que c'était un peu différent.
Et la dernière fois que tu as chanté, pas directement avec moi, mais pour moi, c'était pour l'anniversaire des talents lyriques en janvier.
Ouais.
Et là, c'était rien à voir avec ni le baroque, ni le classique. Enfin, si,
bon,
il y avait
une petite papagena qui est passée par là, mais c'est vrai que tu m'as demandé de chanter cet air de jazz.
Ben, c'est-à-dire que, oui, j'avais le souvenir que tu aimais beaucoup le jazz et que tu en chantais encore beaucoup.
Ouais.
C'est le cas ?
Ou
c'est juste quelque chose de privé ?
C'est quelque chose de privé pour le moment. C'est quelque chose que j'aimerais
exploiter.
D'ailleurs, en fait, cette soirée Talent Lyrique a été le début d'un nouveau projet dans ma tête. Cet air de Judy Garland, ça m'a donné envie de faire un projet.
Je suis sûr que si tu auditionnais pour un musical à Londres aux États-Unis, ça ne serait pas impossible.
Ce serait pas impossible. Ouais, il faudrait que je reprenne quelques cours de danse et que je reprenne quelques kilos. J'en sais rien, mais j'adore ça en tout cas. C'est vraiment quelque chose que je sens que c'est dans mon ADN quand même depuis toujours. Et j'étais avec un ami hier, il était à la guitare et moi je chantais et on s'amusait en fait à chanter du Sting, du Freddie Mercury, du jazz.
Oui, ça, je me souviens quelques petites soirées à Dijon où il y avait beaucoup de jazz qui me faisait fuir un petit peu.
Qui te faisait un peu fuir,
moi,
c'est vrai.
C'est pas ma tasse de thé, mais je reconnais que il faut un certain talent pour le chanter aussi bien que tu le fais. Du coup, tu abordes quel rôle ? Alors tu es sur Ophélie, sur L'Acmé, tu es sur des rôles comme ça.
Oui, pour le moment. Donc, je viens de terminer L'Acmé à l'Opéra de Liège. Ophélie, on la retrouvera à l'Opéra de Liège aussi en mars. Et puis, il y a la première Lucie de La Mère Mort qui arrive. Et Lucie, c'est un peu le rôle de mes rêves depuis toujours. C'est un des premiers rôles que j'ai découvert. Et là, je suis très contente parce qu'on fait la version française.
Ah oui.
C'est une version qui a été écrite pour une coloratour. Donc, on est quand même vraiment dans mon type de voix. Parce que certains pourraient dire, elle aborde déjà Lucia, c'est trop tôt, blablabla. On sait comment sont les fanatiques d'opéra. Toujours très, très prudents. Et ils ont raison d'ailleurs. Mais ici, en l'occurrence, c'est vraiment la version écrite pour soprano coloratour. Le Regnava nel silenzio est remplacé par un autre air complètement différent avec une tessiture beaucoup plus aiguë.
Et par Donizetti lui-même ?
Oui, par Donizetti lui-même. Et le texte a été réadapté par lui également.
Ah oui, il est venu à Paris, effectivement.
Ouais, voilà. Et par exemple, le duo avec le baryton est transposé d'un ton au-dessus. Et la grande scène de la folie est transposée également un ton au-dessus.
Et tu sais qui chantait ?
Je ne sais pas qui l'a créé, non. Non. J'ai fait quelques recherches parce que comme je viens de sortir un disque dédié à Marie Cabel, je me suis dit peut-être qu'elle avait chanté Lucie, mais elle ne l'a pas fait. Donc ça devait être quand même
quelqu'un de balèze.
Quelqu'un d'un peu plus balèze que Marie Cabel, même si je suis sûre qu'elle était balèze. Mais voilà, et donc je suis très contente de faire ce rôle. C'est, Et puis Boussemans à l'opéra, au Théâtre de la Monnaie, mon premier opéra contemporain.
Donc, tu es prophète en ton pays, alors ?
Oui, cette année, oui. Les années suivantes, un petit peu moins, mais c'est comme ça. Mais ça fait plaisir de rentrer.
Ça marche comment pour une coloratour ? Parce que je me demande toujours, par exemple, La Reine de la Nuit, deux airs et c'est tout ?
Oui.
Un petit ensemble à la fin, pas grand-chose quand même. Mais ces deux airs sont tellement attendus par le public, alors ça veut dire qu'on a une pression d'enfer sur la tête.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne veux plus chanter La Reine de la Nuit.
Ouais. Mais il faut être un peu dingo dans sa tête pour être coloratour. Je veux dire, une L'Acmé qui chante ses suraigus, ses trucs stratosphériques. Comment ça marche dans la tête ?
Soit... On est un peu dingo, en effet, et on s'en fout, si je peux dire, et on y va et on fonce. Soit
c'est
on n'est pas dingo. Non, pas du tout, non, malheureusement. Alors, j'ai un côté un peu dingo, j'en conviens tout à fait, mes amis. Mais tu sais, depuis qu'on s'est connus, notre Reine de la Nuit date de 2017.
Oui.
J'ai vieilli et toute ma naïveté, mon innocence s'est enfuie avec le temps.
Et donc, tu n'as plus l'innocence pour monter comme ça sur des contrefas. Dire,
fonçons sur des contrefas, voilà, c'est rien. Non, et puis la voix change quand même.
Parce qu'on l'a fait en 430 au départ.
Alors non, on l'a fait en 430. Je crois qu'en 430, je pourrais encore accepter. Ouais. Parce qu'il y a quand même un...
Tu as refusé ma dernière Reine de la Nuit, mais bon, mais parce que t'étais
pas
libre.
C'est parce que je n'étais pas libre, en effet. Bon. Et mais de toute façon, le Covid est passé par là, donc...
c'est vrai.
Voilà. Alors, j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé? C'est intéressant parce que on en parle avec beaucoup d'autres Reines de la Nuit.
Oui.
On a toutes le même problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une représentation qui se passe mal, le corps enregistre tellement fort la mauvaise représentation. C'est comme un traumatisme.
Ah, oui.
Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une ou deux représentations qui se sont mal passées. Et après, on a un blocage, en fait, qui se fait. Et quand... Il faut dépasser ce blocage.
Non, mais je comprends.
Et parfois, on n'y arrive pas. Là, moi, je travaille avec des gens pour vraiment solidifier le mental. Parce qu'en effet, pour ce genre de voix, il faut être un sport. C'est comme les sportifs de haut niveau. Il faut être au millième de seconde, savoir exactement où on va, ce qu'on fait. Et avoir le doute qui nous permet de se dépasser, mais pas celui qui va nous paralyser. Et moi, j'ai un peu eu ce problème avec la Reine de la Nuit. C'est peut-être la première fois que j'en parle vraiment aussi ouvertement, mais je pense que c'est important pour que les gens comprennent qu'à ces hauteurs-là, on ne peut pas tricher.
Ben non.
Et dès que la peur vient se mettre, la peur, elle ne se met pas dans les jambes, malheureusement, elle se met dans la gorge. Ah. Et quand les muscles de la gorge se tendent, les cordes ne réagissent pas comme on voudrait. Et donc, on ne peut pas sortir les sons comme il faudrait. Donc, voilà, il faut éliminer la peur de notre travail. Mais pourtant, la peur fait partie du job. Oui, enfin, c'est la même chose pour toi, devant un orchestre et tout un plateau.
Ou à mon clavecin, d'ailleurs, plutôt.
Et peut-être à ton clavecin, plus que quand on est tout seul.
Oui. Être coloratour, ça veut dire avoir des cordes vocales plus petites, c'est ça?
Oui, plus petites.
Donc, ça veut dire plus de précision.
Oui, mais
c'est un peu comme jouer dans l'aigu du violon, c'est-à-dire tout à coup le moindre petit millimètre.
On a moins de marge d'erreur en fait.
C'est ça.
Je pense. Et puis c'est assez étonnant de voir les différentes formes de cordes vocales. Les miennes sont petites, mais elles sont assez larges. Donc ça nous permet, ça va complètement changer aussi la nature de la voix.
Tu as l'impression déjà d'avoir beaucoup changé du point de vue du timbre, du coffre, de je sais pas quoi, de l'ampleur de ta voix.
Je pense que depuis 5 ans, ma voix s'est homogénéisée. Ça oui, ça a changé à ce niveau-là. À l'intérieur de moi, j'ai l'impression que ça a changé. Quand j'écoute mes disques, c'est pas tout à fait ce qui en ressort. J'ai peut-être gagné un peu plus en projection, en puissance sur toute la longueur de la voix, parce que voilà, j'ai commencé, il y avait certains endroits qui étaient... C'est cette question d'homogénéiser le son. Ouais, ça, j'ai gagné en facilité, en tout cas à certains endroits. Pour moi, c'est plus facile. Ça.
Tu as toujours un prof qui suit.
Je travaille toujours. Je travaille ici à Paris avec une super prof.
Ouais, génial.
Ouais.
Et il y a des rôles que tu as en ligne de mire en te disant, alors ça sera peut-être dans 2-3 ans ou
Oui. Il y en a plein.
Je sais pas, moi, Anna, par exemple, dans Don Giovanni, on te l'a proposé déjà?
Eh bien, on ne me l'a jamais proposé.
Ça serait pas mal, ça.
Mais dans quelques années, oui, c'est quelque chose que je pourrais envisager. J'ai même repensé à travailler Constance pour Constance dans L'Enlèvement au Sérail.
Parce que tu l'as travaillé, mais tu as chanté
Blanchen. Non, j'ai travaillé, j'ai chanté Blanchen, que j'ai adoré, chanter. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à aimer autant ce rôle, mais c'était très très chouette. Mais voilà, je peux apprendre plein de choses avec Constance. Et puis oui, il y a des rôles un peu, je me dis, allez, dans ma carrière, j'aimerais atteindre Manon Traviata. Ce serait un peu mon Mont Everest.
Un objectif.
L'objectif des rôles, voilà, là où ma voix pourrait m'emmener le plus loin dans la largeur de la voix, dans le lyrisme. Mais il faut qu'on soit prudent parce que c'est tellement fragile. Quelques rôles un peu trop larges trop tôt. Et on a un vibrato. Alors, en plus, ça dépend des lieux. J'irai jamais chanter Traviata à l'Opéra Bastille, ça, on est d'accord. Je le ferai dans des maisons à taille humaine, comme l'Opéra de Liège, par exemple, qui me connaît bien et qui pourrait me faire confiance aussi sur ce genre de rôle.
C'est ça.
C'est vrai que c'est des questions qu'il faut. Enfin, il faut être lucide par rapport à ses capacités, je pense. Moi, je suis un tout petit bout. Je suis un tout petit bout de femme, je ne suis pas plus d'1m57 quand même. Je n'ai pas le coffre d'une Joan Sutherland, ça c'est sûr.
Ouais. Et la mélodie alors, dans tout ça, le lead
J'aime beaucoup. J'ai fait ce récital avec Nicolas Kruger sur la mélodie anglaise, avec des compositeurs belges, français et anglais, que j'ai adoré. Malheureusement, il y a peu de théâtres et peu de maisons qui nous invitent pour en donner. Ou alors, il faut vraiment être dans ce créneau, avoir ses entrées à Wigmore Hall qui ne fait quasiment que ça. Ou... En France, ça a été vraiment difficile de vendre ce projet. D'ailleurs, on ne l'a pas donné en France.
C'est vrai qu'il y a peu d'endroits qui se spécialisent.
Et j'en ai parlé encore avec un directeur de théâtre il y a quelques jours. On donnait Zoroastre de Rameau. La salle n'était absolument pas pleine. Il a un récital de mélodie avec Cyril Dubois, qui est quand même un spécialiste de ce répertoire, qui fait du Fauré. Il n'est pas non plus en train de nous présenter une œuvre complètement inconnue et abstraite. Et c'est difficile de faire venir les gens. Donc on se dit, est-ce qu'il faudrait faire venir un comédien pour réciter des poèmes de Shakespeare en même temps, pour un comédien connu pour essayer d'attirer le monde. La mélodie se vend assez mal en France, en tout cas, et en Belgique. Alors, j'ai pas de référence par rapport à l'Allemagne. Je sais qu'en Angleterre, par exemple, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus, mais j'ai plus aucune entrée en Angleterre. Donc voilà, là, ce week-end, je donne quand même un concert de mélodie avec clarinette et piano. Et ça me fait plaisir de faire un peu de musique de chambre aussi. J'ai enregistré ce disque avec les Voce, Quatuor Voce. On a fait du Debussy. Donc j'aime beaucoup, mais on nous en propose pas... Enfin, c'est difficile de nous produire avec ça, en tout cas.
Il y a un metteur en scène avec lequel tu t'es entendu particulièrement, où tu t'es dit, alors, vraiment trop bien,
Oui.
Je ne vais pas oublier cette expérience.
Emilio Sarri, avec qui on a fait Les Noces de Figaro, j'ai adoré.
Il s'est beaucoup occupé de toi ?
Il s'est beaucoup occupé de chacun, en fait. Alors, on est dans l'opéra vraiment traditionnel, un peu old school, mais qui fait tellement du bien parce qu'on est là, on joue. Et plus récemment, j'ai fait...
Suzanne, elle est souvent sur le plateau.
Alors, Suzanne, quand même 3 heures sur scène, donc forcément, il s'est beaucoup occupé de moi, ça c'est sûr. Et puis, c'est un rôle tellement riche. Je trouve qu'il a réussi. En tout cas, moi, j'ai adoré travailler avec lui. Je me rappelle vraiment de lui qui rit, qui nous montre comment rire, comment se moquer d'une situation. J'ai adoré ça. Et récemment, j'ai travaillé avec l'assistante d'un metteur en scène sur Rigoletto. Je connais bien c'est Cécilia, mais son nom de famille, on l'a à peine dit parce que c'était pas sur le programme de salle, et c'est honteux d'ailleurs, parce qu'elle faisait la reprise de la production de John Turturro, qu'on n'a pas vu. Il était bloqué aux États-Unis encore avec le Covid, et donc son assistante a été vraiment formidable. Ça a été un travail une vraie direction d'acteur. Et souvent, à l'opéra, on n'a pas le temps d'aller aussi loin quand on fait des créations.
C'est ça.
Et d'avoir quelqu'un qui nous dit, tu te rappelles quand tu avais 16 ans, ce que tu ressentais pour tes premiers émois amoureux. Oui, je m'en rappelle très très bien. Ouais. J'ai souffert.
Ouais.
Et j'aime quand on va aussi loin, quand on va chercher des choses vraiment réelles. Et qu'on ne dit pas, là, tu vas descendre le plateau, vous vous mettez là, et puis vous faites ce que vous voulez. Alors, j'aime vraiment quand les metteurs en scène nous dirigent, même dans un geste de la main, dans un regard, quand on nous dit même ton dos doit respirer, il doit vivre quelque chose. Si tu tournes le dos au public, il doit exprimer quelque chose. Et elle m'a apporté beaucoup pour tous les rôles que je vais jouer.
Ah oui.
Je pense, dans le futur.
Et le baroque t'a apporté quelque chose aussi ?
Ah oui, ouais. La liberté, le plaisir dans le son, que m'apporte aussi parfois le bel canto, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le baroque qui est plus... toutes ces tensions, ces tensions harmoniques, ça amène beaucoup de plaisir dans le chant.
L'attention au texte, peut-être ?
L'attention, mais comme je chante beaucoup de français, romantique français aussi, je suis obligée de faire attention au texte. Donc ça, c'est vrai que ça m'a... Les deux se rejoignent vraiment. Enfin, en tout cas, je vais pas donner plus d'attention dans le baroque que dans le romantique français. Ça va être pour moi le même type de travail, la même attention. Mais dans le phrasé, j'ai appris vraiment plein de choses. Et puis ça fait juste du bien de chanter différemment, de sentir cette liberté dans les ornements, d'être libre dans la forme, quoi.
Tu as des hobbies qui permettent de vider ta tête, de coloratour, oublier ses contrefaits.
Mais oh là 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 là,
c'est quoi ? Tu lis, tu te balades, tu fais du ski,
Je ne fais pas de ski.
Tu cuisines.
Mais je cuisine et puis je me suis pris un abonnement à la salle de sport qui sert beaucoup Au mental, il faut maintenant que je la sorte et que je l'utilise. Mais ceci dit, quand j'arrive à la sortir et que j'y vais, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc ça va, voilà. Après, comme je bouge beaucoup pour le moment, j'ai pas eu énormément de temps. Mais là, je vais 2 mois au même endroit, ça va me forcer à faire du sport. Donc ça, le sport, je sens que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Je cuisine et puis j'aime beaucoup plus passer du temps avec mes amis. J'adore papoter au téléphone avec mes amis, ce qui n'est pas très bon pour ma voix, j'en conviens, mais c'est un de mes hobbies préférés.
Ben, c'est important d'avoir des amis.
Mais c'est tellement important, surtout dans ce métier.
D'ailleurs, compte sur moi, je suis ton ami.
Merci Christophe.
Merci infiniment pour cet entretien.
Merci à toi, c'était un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.